Donc je pense que le contrat est bien réalisé. Oui, on fait des études de cas très précises ce matin pour rentrer dans le détail. Vous voyez qu'on a vraiment des aides comparatifs, parce qu'on regarde un peu trop les choses françaises, et en fait il y a beaucoup d'import-export dans ces méthodos de comment on fait la concertation. Et là vous avez deux cas un peu quand même assez différents de ce qu'on voit en France, avec vraiment beaucoup d'initiatives parfois contradictoires. Et moi ce que je trouve intéressant aussi, c'est l'idée que quand on pense à la démocratie urbaine, et qu'est-ce que ça veut dire que le parti démocratique, il y a toujours la question de qui parle-t-on. On voit bien que dans le cas de Londres, comme dans le cas de Barcelone, qui sont les gens qui sont censés donner leur avis? Il y a les habitants, bien sûr, il y a aussi des gens qui passent, il y a aussi des visiteurs, il y a aussi des touristes, il y a aussi des investisseurs étrangers. Donc la question de qui a le droit ou pas de participer, c'est quand même une question qui devient assez centrale. C'est comme pour le référendum sur Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que c'est ce droit atlantique qui doit voter, ou est-ce que c'est plus large ou pas? Il y a toujours une échelle de qui participe. Et c'est vrai qu'on a toujours pensé à la démocratie par rapport aux habitants, et on voit bien à quel point c'est important dans un certain nombre de cas. On voit bien qu'il y a beaucoup d'autres gens qui ont un intérêt ou qui ont des choses à faire dans tout un ensemble de territoires. Donc je voudrais garder ça un peu en tête sur ces choses-là. La deuxième chose qui pour moi est vraiment très intéressante, qu'on a vu par rapport à ce qu'on a dit hier, c'est l'idée que dans ces questions de politique urbaine, il y a encore une naïveté sur les politiques publiques qui reste assez impressionnante, quoi. Dans les deux cas d'ailleurs, dans les deux cas. Hein. Vous voyez bien ce que j'ai dit hier, c'est la mise en œuvre, la mise en œuvre, la mise en œuvre. Et j'entendais des gens ironiques derrière moi, c'est vrai que on voit ces gens des mouvements sociaux super intéressés par on participe. Ah oui, à un moment donné, il faut quand même qu'on prenne des décisions pour les mettre en œuvre. Et vous voyez bien, ces questions de participation, c'est aussi dans la mise en œuvre. Hein, et c'est fondamentalement même peut-être, plus que dans la décision parfois, dans la mise en œuvre, que des choses importantes peuvent se passer, et pas des ajustements. Donc pensez que la participation, ça peut être au départ, ça peut être sur des projets, ça peut être le vote, ça peut être dans la décision, ça peut être beaucoup dans la mise en œuvre. Hein, il faut penser toute la séquence. Donc quand on met ces deux dimensions ensemble, on voit bien que c'est deux différentes. Et puis la troisième chose qui est quand même très frappante dans les deux exposés, c'est que ces questions-là, c'est aussi des rapports de pouvoir. Ce sont des questions politiques. Moi, j'entends souvent des gens qui me disent « Ah non, mais il faut dépolitiser tout ça. » Mais c'est la rigolade. Évidemment qu'il y a toujours des questions politiques au sens « Comment on fabrique du bien commun ? Comment on fabrique du bout d'intérêt général qui est du bout situé d'intérêt général ? C'est pas l'intérêt général qui tombe du ciel avec le législateur. C'est comment on construit collectivement des bouts de trucs qui vont permettre de faire l'action collective. On voit bien que les politiques urbaines, c'est des formes d'action collective avec différents types d'intérêts qui peuvent jouer un rôle. Et on voit bien que ces rapports de pouvoir sont très forts et qu'il y a différents types de ressources. Moi, ce que je trouve fascinant dans les deux cas, c'est qu'on a les ressources, les gens qui vont utiliser le journal. Et donc, le Guardian est un milieu essentiel des politiques urbaines en Grande-Bretagne, par exemple. On a les réunions publiques immenses qui sont faites donc, à Barcelone. On a des nouvelles technologies pour utiliser plein de propositions, classes, etc. Donc, on voit bien que c'est un fourmillement de possibilités. C'est vraiment un moment où on est en train d'inventer quelque chose. Hein, c'est compliqué. Je crois que vous avez vu Amsterdam un peu d'autres manières de faire, et Rotterdam, avec les Hollandais, là, ils s'organisent pour, ils font les trucs, ils disent bon, c'est encore un autre modèle. Donc voilà, c'était ça un peu l'idée de ce matin, c'est voilà, réfléchir pas à la démocratie en général, mais vraiment en train de se faire sur des projets un peu précis, et avec les difficultés et les apprentissages qui sont en train de se faire. Parce que les Britanniques, d'une certaine manière, ce que tu as très bien dit à la fin, hein, le nouveau maire de Londres, Sadiq Khan, il est élu en partie en réaction contre ça. Hein, donc on va mettre là, pour le coup, la démocratie classique d'élection a joué un peu son rôle, puisque l'élection s'est jouée en partie sur le logement et sur le transport, mais beaucoup sur le logement. Ça a été quand même le thème principal de campagne. Donc là, il y a eu un vote clairement sur des questions de logement. Hein, donc il y a clairement une remise en cause de certaines choses, et en même temps, il y a plein d'expérimentations qui sont en train de se faire. Et dans le cas de Barcelone, il y a eu le vote, mais qui donne des résultats un peu compliqués, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ils sont, dans les deux cas, tout le monde est en train d'apprendre et de trouver une nouvelle manière de faire. Et si je comprends bien Londres, tu sais ça beaucoup mieux, le maire et son équipe, ils sont en train d'infléchir très sérieusement sur comment faire évoluer ces procédures, jusqu'où les municipalités doivent jouer un rôle ou pas, comment travailler avec des promoteurs. Il y a plein de choses que connaît très bien Claire sur comment les promoteurs travaillent avec les municipalités. On parle de climate gains qui ont été juste évoqués. Donc il y a plein d'autres choses qui se jouent autour. Donc voilà, on voulait mettre ça un peu dans le débat et est-ce que ça fait écho à des choses et est-ce qui vous intéresse sur ces questions-là. Donc vous n'hésitez pas à vous poser aussi des questions de clarification, hein, parce que c'est des endroits un peu exotiques dans le détail des politiques urbaines. Donc n'hésitez absolument pas à poser des questions qui vous diront « Oh, je vais pas poser ça parce que c'est un peu basique ». N'hésitez pas, on est là pour expliquer les choses, pour comprendre, donc pas de soucis. D'accord. Donc voilà les trois points que je voulais commencer. Alors on va commencer par un premier tour de... On va commencer à gauche, on va commencer à droite. On va commencer à gauche aujourd'hui, parce qu'on a 15, c'est plus facile. Et puis on fait un premier tour, 3-4 questions, et puis tu réponds. Et puis ensuite, on fait un deuxième tour. Ouais.
J'ai j'ai une question déjà peut-être un peu technique liée à mon ignorance, je m'en excuse. Je voulais savoir que
personne ne s'excuse, on est tous ignorants.
Je ne suis pas spécialiste.
Hein, ouais, c'est normal, c'est pour ça qu'on est là.
Donc, je voulais savoir quels étaient les pouvoirs concrètement du maire de Londres, de Sadiq Khan, par rapport au borough. Parce que je n'ai pas bien compris effectivement s'il y avait un véritable pouvoir ou pas. Ça, c'est un peu la question technique. Moi, j'ai deux remarques très rapides. La première, c'est la question liée finalement à la question d'amateurisme, entre guillemets, ou de professionnel. Enfin, la question urbaine est-elle une question finalement. On voit bien que finalement, enfin, si on peut dire par réaction à Barcelone, c'est un peu, si j'ose dire, entre guillemets, les amateurs qui ont pris le pouvoir par rapport à des professionnels auto-institués par rapport à la politique urbanistique. Et on voit bien qu'à Londres, il y a un peu les deux, parce que j'ai entendu qu'il y avait un inspecteur d'urbanisme qui validait les plans, etc. Donc la question que je me pose un peu, peut-être sociologique, mais je ne suis pas sociologue, c'est de savoir finalement est-ce que c'est une question trop sérieuse pour la laisser finalement à des populations, enfin un peu comment c'est vécu dans les deux endroits, si j'ose dire. Et la deuxième remarque que j'avais, c'était autour finalement de, par rapport au modèle français, je ne sais pas quel est votre sentiment sur ce bon modèle. Bien vu que vous aviez des idées un peu, voilà, que vous exprimiez de façon professionnelle, mais quand même Barcelone, sauf erreur de ma part, c'est quand même, on est dans la réaction, c'est-à-dire que, je ne veux pas dire que c'est pas fait exprès, mais le maire de Barcelone a finalement été élu, de toute façon, un petit peu par accident de l'histoire. On a essayé la gauche pendant trop longtemps, on a essayé la droite, on peut faire des modèles aussi en France. Je veux savoir à peu près, voilà, est-ce que ce modèle de réaction qu'on connaît à Barcelone, le modèle de Londres, on a plus pensé, est-ce que c'est finalement ça qui pourrait faire miracle par rapport à l'urbanisme?
Alors, en bref, Londres, les compétences du maire, elles sont dans la première colonne de ce petit tableau, logement, aménagement stratégique, transport et service de pompiers. Ça, ce sont les compétences du maire. Mais il a un outil de poids, en fait, à son actif qui contraint énormément les municipalités, c'est que le document que vous voyez là-haut, qui est le plan stratégique d'urbanisme de Londres, le London Plan, impose des quotas de production de logements aux municipalités depuis 2011, obligatoire. Et il y a des outils politiques, c'est un peu compliqué de rentrer dans les détails, mais si en gros un PLU de chacune des 33 municipalités refuse d'appliquer ou d'intégrer ses quotas de production de logements et la croissance que lui impose le plan de Londres, le PLU n'est pas validé par l'inspecteur. Donc il y a vraiment un outil très hiérarchique dans la hiérarchie des plans où les municipalités sont mises au pas sur leur quota de production de logements. Et l'autre outil, c'est le fait que le plan stratégique de Londres définit des zones de croissance donc, qui sont indiquées dans ce schéma et qui mettent énormément la pression sur les municipalités concernées. Donc ça, c'est un outil absolument crucial. Et il y a un autre outil, le maire de Londres a le pouvoir, et c'est extrêmement étonnant, de se saisir d'un gros dossier de permis de construire, d'une demande de permis de construire pour un projet stratégique. S'il estime que la municipalité est trop réticente à accepter un grand projet, il peut se saisir du dossier et en gros retirer le droit de décision pour des dossiers stratégiques. Alors c'est un outil politique pas utilisé très souvent, mais le Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, il a dessaisi certaines municipalités de gros dossiers pour faire passer en force des projets. Donc il y a des outils assez forts sur les questions de l'urbanisme. La deuxième question sur est-ce qu'on peut laisser la production des plans à des... Est-ce qu'on peut laisser la production de plans à des citoyens qui ne s'y connaissent pas? Dans le cas de Barcelone, ce qui est très intéressant dans la nouvelle équipe municipale d'Ada Colau, ce sont loin d'être des amateurs. Tous les gens dont elles sont entourées, c'était beaucoup de gens qui sont impliqués dans le mouvement Barcelona en Comú. Beaucoup sont des amis, j'en connais beaucoup. Ce sont beaucoup d'architectes, beaucoup d'urbanistes, beaucoup d'universitaires, beaucoup de journalistes, on va dire la classe moyenne intellectuelle. Donc en fait, elle s'est entourée d'une très très bonne équipe de gens extrêmement compétents et qualifiés qui travaillent très bien et très dur. Le problème, c'est plus la question de la naïveté politique, des outils réels, des compétences et des compromis politiques avec les autres groupes municipaux. Donc il n'y a pas de problème sur la compétence de son équipe. C'est plus la viabilité politique du programme et les compromis politiques. À Londres, dans les associations de quartier qui se sont constituées, très souvent, on a des architectes et des urbanistes qui habitent dans le quartier qui s'impliquent. Donc il y a un vrai capital social et culturel, et ça dépend essentiellement de la présence de ces acteurs-là. Et dans les quartiers où il y a assez peu de ce capital présent, en général, le processus n'émerge pas. Donc là, peu de surprises.
On va passer la parole. Je ne peux quand même pas m'empêcher de répondre en 3 secondes sur la remarque sur « laissons les experts gérer, c'est quand même beaucoup mieux ». Par urbanisme pour être là-dessus. Et même, on dit toujours l'économie est trop sérieuse pour être laissée aux économistes. Dieu merci, on ne laisse pas les experts, uniquement les professionnels. Il y a plein de choses où ils sont catastrophiques dans ce qu'ils font. Donc il faut ouvrir, il faut qu'ils apprennent, il faut que les gens apprennent. Et j'irais même dire que ne laissez pas entièrement la recherche aux chercheurs, ça peut être très bonne idée. Il ne faut pas laisser faire attention à l'argument de professionnalisme, parce qu'il y a quand même des limites. Vous avez évidemment raison, mais il faut que les gens apprennent. Il y a des limites très très fortes à l'argument des professionnels, qui toujours vont justifier. Il faut nous laisser faire, on connaît tellement mieux. Donc on connaît ça par cœur, il ne faut jamais jamais les laisser faire. On continue. Allez,
c'est là. C'est quand même très pratique. Pour comprendre comment est organisé le Grand Londres, il y a des municipalités qui sont élues au suffrage universel direct, et le maire est élu par les municipalités ou bien par le suffrage universel
direct. Non, non, il est élu au suffrage universel direct.
Donc j'imagine qu'il y a une blague d'hier là.
C'est un vieux gag.
Donc le maire de Londres est élu au suffrage universel direct. C'est le mandat démocratique direct à l'échelon municipal. On dit souvent que c'est le maire qui a le plus d'assises démocratiques. Il est élu par 8 millions de personnes. Et chacun des 39 boroughs que vous voyez sur cette carte sont aussi élus directement, donc avec un maire et un conseil municipal.
Et
les élections ne sont pas forcément au même moment. Donc il n'y a pas de concurrence entre ces déconnectés. L'élection du maire avait lieu la semaine dernière, et l'élection des boroughs avait lieu il y a un an. Par exemple, j'ai voté dans mon quartier. Hein.
Parce qu'il faut rappeler qu'à Londres, quand vous payez votre taxe, vous votez.
Non, ça c'est en vertu du droit européen. Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de voter aux élections municipales, ça
droit européen, peut
être s'arrêter.
Oui. Compte tenu du prix de l'immobilier, il y a deux mots qui n'ont pas été cités, c'est corruption et racket organisé par des associations qui se montrent uniquement pour ça. Et c'est pas parce que je viens de Marseille que je pense que c'est...
Vous parlez de Barcelone ou de Londres ou des deux.
Les deux, parce que le prix de l'immobilier est élevé aux deux
ans. Oui. Alors, à Barcelone, l'enjeu clé sur ces questions de corruption, c'est essentiellement dans la vieille ville, depuis 10-15 ans, où à cause du marché lucratif du logement touristique, des mafias organisées ou des propriétaires achètent des logements à tour de bras pour les convertir en appartements touristiques. L'ancienne maire de quartier socialiste de la ville de Barcelone a essayé de s'attaquer au problème. Elle a multiplié les contrôles, elle a essayé de poursuivre les propriétaires les plus véreux. Elle a eu des menaces de mort. Elle était sous protection rapprochée, elle a démissionné, elle est partie se cacher pendant 2 ans. Donc ça montre l'étendue du problème à Barcelone. À Londres, ce que disent souvent les Britanniques, alors on a toujours l'image de la Grande-Bretagne comme d'un pays pas corrompu, et ce que disent les Britanniques de manière assez cynique, c'est que c'est parce que chez eux la corruption est légale. Donc à Londres, tout ce système très opaque dont je parlais de négociation entre municipalités, développeurs privés et le pouvoir discrétionnaire explique que certaines choses qui sont illégales ailleurs peuvent se faire. En gros, si tu me payes, je te donne ton permis de construire, sauf que c'est légal parce que le paiement va, théoriquement, retourne dans les caisses de la collectivité qui peut l'utiliser ensuite pour développer des services publics. Donc il y a cet outil qui, ailleurs, est illégal, qui là-bas est légal et encadre, et bien sûr encadré, c'est une simplification, mais qui explique pourquoi on a un pouvoir énorme de grands promoteurs qui à coup de paiement de cette taxe, ça s'appelle les accords, enfin il y a un terme juridique en anglais, l'article 106, arrive à décrocher des permis de construire en se servant de cet outil-là pour faire pression sur les municipalités. La deuxième chose qui se passe aussi en ce moment, et il y a beaucoup de contestations citoyennes là-dessus, par exemple à Tottenham, lequel je vous ai montré, c'est pourtant une municipalité de gauche, théoriquement travailliste, il y a des négociations secrètes entre grands promoteurs privés et municipalités désespérés qui ont besoin de financement sur la privatisation des terrains publics. Donc en ce moment, pour exagérer un petit peu, c'est les soldes sur les logements HLM. Donc toutes les municipalités de Londres essayent de vendre les terrains sur lesquels il y a du logement HLM parce que ça leur rapporte des financements énormes. Et surtout, en même temps, elles donnent l'autorisation à des promoteurs de détruire le logement social en partie et de reconstruire à des densités beaucoup plus élevées. Et c'est ça, en ce moment, l'enjeu énorme des luttes urbaines, avec des luttes très violentes et surtout des négociations qui se font en sous-main. Par exemple, en ce moment, à Tottenham, il y a une grande grogne populaire quand les citoyens se sont aperçus que la maire faisait des grands processus de participation publique, était à Cannes, au MIPIM, en train d'aller vendre tous les logements sociaux de Tottenham. Pour simplifier.
C'est pour ça que c'est intéressant les deux cas, parce qu'on voit bien que dans le cas de Barcelone, c'est une expérimentation très forte de gauche participative, mouvements sociaux très horizontal, avec les difficultés que ça a. Et le cas de Londres, alors moi je suis très très prudent sur le néolibéralisme qu'on met à toutes les sauces et que ça explique rien du tout 9 fois sur 10. Et là on a un vrai mécanisme important, c'est-à-dire que vous coupez le budget de la moitié des municipalités et vous leur dites, si vous voulez faire quelque chose, La seule chose que vous pouvez faire, c'est vendre vos logements sociaux. Si vous ne le faites pas, vous êtes en faillite. Et donc, ils ont forcément intérêt, ils sont quasiment obligés de vendre leurs logements sociaux. Ça, c'est la seule manière qu'ils ont pour pouvoir garder leurs services et se faire réélire. S'ils restent dans l'état actuel, ils vont perdre les élections la prochaine fois. Donc ça, c'est des vrais mécanismes pour contraindre. Vous rappelez, je parle de la main droite de l'État hier et le gouvernement à distance par indicateur. C'est aussi d'imposer des contraintes très fortes qui vont obliger les gens à réagir en fonction du but politique voulu. Donc on a deux cas, ce matin on a fait exprès de prendre des cas vraiment à l'opposé l'un de l'autre. C'est pour ça que je voulais les... Vraiment merci Claire d'avoir été aussi claire, si j'ose dire, sur ces deux cas. Ensuite...
Du coup, quelles sont les marges de manœuvre du maire de Londres, ou du maire de Londres, par rapport à ses ventes de logements?
Vous parlez bien fort,
oui,
si vous entendez
derrière. Quelles sont les marges de manœuvre du nouveau maire de Londres par rapport à ses ventes de logements des municipalités, des boroughs? Et moi, j'avais aussi une question sur Hackney. Est-ce que vous pourriez repréciser, finalement, cette alliance avec les populations d'origine, est-ce que, vous parliez du rôle un peu ambigu, mais quand même généreux, des classes gentrificatrices, est-ce que finalement, en quoi ça a échoué? Pourquoi ça n'a pas été oublié? Est-ce qu'il y a eu aussi une négociation avec la municipalité?
Alors, la marge de manœuvre du maire de Londres. Justement, parce que le maire de Londres, il a cet outil du London Plan, donc le document de planification stratégique. Il peut, ça serait une décision politique avec le mandat qu'il a, décider de modifier dans le London Plan, notamment le pourcentage minimum de logement social que doit réaliser un promoteur privé en échange d'avoir un permis de construire. C'est un autre outil du droit britannique qui est des pourcentages minimums de logements sociaux qui doivent être livrés par un promoteur. Ça, c'est un outil absolument fondamental. Le quota a été baissé par le précédent maire conservateur, entre 0 et 10%, c'était 50 sous l'ancien maire. Donc si ça décale vraiment suivre ce qu'il a promis, il pourrait, par exemple, une des premières choses qu'il pourrait faire, c'était augmenter ce quota qui ensuite s'imposera aux développeurs privés. C'est une des choses qu'il peut faire. Il a fait d'autres propositions, notamment de créer et ce sera politiquement compliqué, mais il pourrait peut-être y arriver, d'essayer de tester un système londonien d'encadrement des loyers, ce qui serait assez complexe, et c'est une des choses dont il est là. Et il y a aussi des discussions sur créer des sociétés municipales de production de logements sociaux. Donc il y a plusieurs outils qui sont en discussion. La deuxième question sur ce qui s'est passé à Hackney. Hackney, c'est un exemple intéressant. La municipalité, contrairement à celle du Borough où est Tottenham, est à gauche aussi, mais plus sensible et moins radicale dans la question de la démolition du logement social. Donc le maire actuel de Hackney a été obligé de réformer certains ensembles de logements HLM, mais dans l'ensemble, c'est quand même de protéger ce qui reste. Et il y a un discours assez... Dans le cas de Hackney, ce n'est pas un échec, je pense. La mobilisation des classes moyennes, dans certains cas, a vraiment apporté de l'expertise et du capital culturel, a réussi à préserver des équipements publics. Il y a eu des campagnes qui ont eu du succès, de défense d'une bibliothèque, de défense d'un logement HLM. Donc je pense vraiment que cet apport de capital culturel est important. Là, je me déclare un conflit d'intérêts parce que je fais partie des gens qui se sont impliqués dans ces mouvements sociaux. On a aussi dans notre université une association qui mobilise les étudiants et les enseignants chercheurs en urbanisme et en sociologie pour aller travailler avec des associations citoyennes et des mouvements sociaux. Donc ça a fait changer les choses dans certains cas. Pas tout, mais dans certains cas, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que ça apporte quelque chose.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe un peu insurmontable entre cette spéculation dont tout le monde a l'air d'être satisfait finalement à Londres, la vie coffre-fort, etc., et le fait de donner ce genre d'initiative aux citoyens en leur disant « allez-y, proposez-nous des choses », on voit bien que derrière, il y a une espèce de rouleau compresseur qui va passer et qui fait que finalement, c'est un peu de chance d'aboutir, quoi.
Oui, je suis totalement d'accord. Là, je pense que c'est ça, pour moi, la contrainte numéro un de ces processus. C'est pas leur propre faiblesse. C'est ça, c'est le rouleau compresseur. Et là, c'est une question politique épineuse parce que cette spéculation, c'est ce que j'essayais de montrer à la fin, elle est expliquée par... des phénomènes de mondialisation, elle est expliquée par des régulations nationales du gouvernement britannique. Il faudrait changer des choses sur tout le système fiscal britannique, la lutte anticorruption. Et donc, pour changer ça, ça ne dépend plus de l'échelle locale. Il y a des décisions qui doivent se prendre au niveau de la taxation, notamment. Et c'est un débat politique, enfin, en tout cas, tant que le gouvernement conservateur, ce débat n'aura pas lieu, puisque c'est... Il n'y a aucun intérêt à remettre ça en cause. Mais je suis d'accord avec vous, c'est ça la contrainte la plus énorme sur la possibilité de réussir tout le monde de ces mobilisations. Certains citoyens en sont très conscients, ils disent, il y a cette jolie expression anglaise, rearranging the deck chairs on the Titanic. Donc, on bouge les chaises sur les stèles.
Ça s'appelle une conclusion optimiste.
J'ai une question pour la chercheure, mais également la militante, si j'ai bien compris. Au fond, est-ce que ça améliore le sort des personnes, des gens?
Ces processus. Alors, la planification des quartiers en elle-même, à la marge, elle peut apporter des petites victoires sur des choses très concrètes comme des espaces verts, la défense de certains outils publics, des bibliothèques et une petite quantité de logements sociaux. La question fondamentale qui améliore la vie des personnes, pas à Londres en ce moment, c'est le fait que la plupart des classes populaires et moyennes ne peuvent plus se permettre d'être à Londres. Donc la seule chose qui vraiment ferait avancer les choses, c'est la production de logements, l'encadrement des loyers et un salaire minimum. Il y a des campagnes parce que le salaire minimum n'est pas suffisant pour survivre à Londres. Le salaire minimum, c'est une question de législation nationale. Et la question de la production de logement, on en a parlé. Et je pense que c'est vraiment ça qui peut faire la différence.
Les transports, la santé. Une dernière question ?
Une question très vaste. Ce serait simple, je sais que Prince Charles a dit que les architectes avaient fait plus de dégâts à Londres que la Luftwaffe, de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est lié à ces histoires de planification urbaine ? Qu'est-ce qu'il attendait de par là ?
Alors, le prince Charles, comme vous savez, a des visions assez conservatrices sur l'architecture. On va dire
François Pierrot, le prince Charles, vous avez des références.
Attends, on n'a pas les mêmes, hein.
Donc, les goûts architecturaux du prince Charles s'arrêtent à peu près aux années 1880. Tout ce qui a été construit après ne trouve pas grâce à ses yeux. Et donc, du coup, mais par contre, donc oui, ces critiques sont essentiellement sur tout ce qui s'est fait dans les années 60-70 où il n'y avait pas de participation citoyenne. Donc c'est vrai qu'il y a eu, comme en France d'ailleurs, hein, toute une vague de production, notamment du logement social, avec en suivant les modèles d'urbanisme moderniste. Par contre, ce qui est complexe dans le discours du prince Charles, il y a une association et un livre très puissant sur la défense du patrimoine architectural, c'est qu'il y a quand même des questions de classe derrière ces questions esthétiques assez fondamentales. Parce que l'argument d'esthétique au Royaume-Uni est souvent utilisé pour démolir les HLM. Donc c'est souvent au nom de ça qu'on attaque le logement social. C'est moche, c'est des tours, ça marche pas, on détruit. Et donc il y a une utilisation politique de ces arguments de préservation du patrimoine architectural, parfois dans les quartiers, pour s'attaquer au logement social qui est assez intéressant.
Merci beaucoup. Merci.